Dans leur série « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent cette année, en 6 émissions, l'évocation des rapports entre la solidarité sociale et le monde protestant nîmois. Aujourd'hui, de 1848 à la Troisième République. Nous serons accompagnés par la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler, chef d'orchestre, autoritaire de la cour d'Autriche, puis compositeur à Leipzig et installé à New York en 1907. Cette symphonie était composée vers 1890 et elle fut mal accueillie en France en 1910.
Au début 1848, Émile Cos, adjoint du précédent maire Ferdinand Girard, protestant comme lui, préside la nouvelle commission municipale. On prend quelques mesures, mais comme en 1793, la pensée jacobine n'aborde les problèmes socio-économiques qu'avec une approche moralisante sur la pauvreté ou la richesse. En mars, on ouvre des ateliers nationaux jusqu'en juin pour occuper les nombreux chômeurs et l'on prolonge les échéances des effets de commerce. Le banquier Guédan, soutenu par la Chambre de commerce, crée un comptoir d'escompte pour relancer la production avec un capital de 3 millions de francs, dont 1 million fourni par la commune.
Mais fin mars éclatent des manifestations. Des ouvriers tailleurs revendiquent une véritable organisation du travail, la parité dans les conseils de prud'hommes, la fixité des tarifs et des taxes à l'importation. En juin, des barricades se dressent sur le Petit Cours, le futur boulevard Gambetta, et des bagarres meurtrières éclatent. On obtient des droits aux associations et au travail, et la journée de travail est ramenée à 12 heures. Mais finalement, ce sera le retour des légitimistes aux élections d'août et Louis-Napoléon Bonaparte élu en décembre, avec 57% des voix nîmoises masculines.
En novembre, profitant d'une suspension de la loi Le Chapelier et de la fermeture des ateliers nationaux, l'entrepreneur Caius Gracchus Montaigu, fils d'un conventionnel du Roussillon, fonde, avec 912 adhérents, le Cercle des travailleurs de Nîmes, une mutuelle doublée d'une coopérative ouvrière de terrassement sur le modèle des ateliers sociaux proposés par Louis Blanc au printemps.
Le choléra revient fort opportunément en été 1849 pour conforter l'autorité de la nouvelle municipalité Essette qui crée une commission d'hygiène pour étudier l'état de l'habitat populaire. Alors qu'Alphonse Jean, député du Vaucluse, fonde lui clandestinement la nouvelle montagne avec un programme social, réforme de l'impôt, organisation du crédit et instruction professionnelle. Les conflits sociaux se substituent donc aux conflits religieux qui avaient si longtemps servi d'alibi. Compromis avec Jean, dans le complot de Lyon, Montaigu, est arrêté en 1850 et sa coopérative dissoute dès février. Condamné par le tribunal militaire de Lyon à 15 ans de détention, il est gracié en 1856, mais surveillé par la police. En septembre 1852, l'empereur a été bien accueilli à Nîmes et les affaires reprennent pour une dizaine d'années, avec le développement des banques, liées au développement ferroviaire et au commerce colonial. Pourtant, à Mulhouse, le gros industriel en textile Jean Dollfus, un protestant proche de Jean Massé, estime que l'on doit plus à l'ouvrier que son simple salaire. Il fonde donc la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières en 1853, un asile des vieillards, une caisse de retraite et une bibliothèque populaire. Sa cité ouvrière compte près de 1000 maisons à la fin des années 70.
En 1850, une première loi reconnaît d'utilité publique les sociétés de secours mutuels développées depuis 1820 pour la prise en charge de la maladie et charge la Caisse des dépôts et consignations de contrôler la première caisse de retraite pour vieillesse, puis, en 1868, la Caisse nationale d'assurance en cas de décès ou d'accident. Ces assurances volontaires sont à but non lucratif, mais non coopérative. Et l'on prend soin de bien distinguer mutuelles et syndicats qui demeurent interdits. En 1863, l'hôpital général est fermé et l'on reconstruit un hospice d'humanité plus vaste sur la route du Zès, qui sera fermé en 1906.
Quand la Troisième République finit par s'installer, seulement en 1881 à Nîmes, avec l'élection d'Ali Margarot, les autorités républicaines précisent « Ni les conseils presbytéraux, ni les fabriques n'ont capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres. » En 1882, les mesures laïques s'accélèrent et l'État supprime le budget des charités sans mesures compensatoires. Il ne s'intéresse guère qu'à l'enseignement et à la santé publique.
D'abord la santé publique. En 1740, l'Hôtel-Dieu, réservé uniquement aux malades, avait été agrandi vers le nord par Esprit d'Ardaillon, avec des bâtiments de deux étages bordant la nouvelle cour d'honneur et son portail monumental sur la rue de la Porte de France. Encore trop petit, il a été reconstruit vers l'ouest par Charles Durand entre 1828 et 1835, avec extension et ouverture sur la route de Montpellier. Jugé insalubre en 1895, on décide la construction d'un hôpital plus vaste, 530 lits, dont 130 pour les militaires, choisit l'architecte Max Raffel et achète un terrain au Puech du Teil, puis plus rien. En 1905, suite à la séparation des églises et de l'État, on saisit l'Hôtel-Dieu, couvent de la Providence attenante, et chasse les religieuses. Le dossier s'enlise jusqu'à la guerre et le projet n'est repris qu'en 1922, avec le même architecte, mais cette fois sur la route du Zès, près de l'Hospice d'Humanité. Fermé, l'Hôtel-Dieu est donc aménagé dans ce centre Gaston Dumergue en 1934.
Le maire veut transformer l'ancien Hôtel-Dieu en maison générale des finances. Mais le ministère refuse et l'on doit se résigner à le vendre fin décembre 1934, en se réservant juste la cour de la morgue pour agrandir la place Montcalm. Cloître et bâtiments conventuels seront détruits en 1978 pour construire une clinique Saint-Joseph sur la rue Saint-Léonce, l'actuelle rue du Cou. Détruite à son tour en 2015. Les bâtiments, face aux arènes, dont l'Hôtel de l'Univers, sont détruits en 1990 en sauvegardant quelques façades. En 1871, la municipalité monarchiste voulait installer un palais des arts dans l'ancien hôpital général avec un début de réalisation et une architecture soignée. Mais en 1881, le maire républicain Margarot préfère, lui, y placer le lycée.
La nouvelle chambre de commerce et d'industrie. Encouragée par le pouvoir, la CCI s'était installée en 1857 au 20 boulevard Gambetta, à la maison Daudet, et reçoit son statut officiel en 1898 avec la centaine d'autres CCI du pays. En 1935, c'est elle qui finalement achète l'ancien Hôtel-Dieu et la Providence pour 1,5 million francs. Les architectes Pélatan et Floutier aménagent de nouveaux bâtiments sur la rue de la République. La structure générale est conservée, mais une grille remplace le mur de façade et son portail monumental. La CCI revend en 1936 la cour d'honneur de l'ERN, actuel foyer Maurice Albaric, pour 250 000 francs, puis ses anciens bâtiments du boulevard Gambetta. Rasé dans les années 1970, la Providence devient son parking.
Voyons maintenant le développement des syndicats et de la bourse de travail. À Nîmes, l'industriel, la question sociale prend la première place. Les catholiques traditionalistes y jouent la carte populiste et la bourgeoisie protestante libérale, le combat progressiste et laïque. Napoléon Ier avait introduit la loi Le Chapelier dans le code pénal en 1810 pour réprimer les ligues privées de défense, ancêtres des syndicats. Une ambiguïté naît avec les mutuelles de secours. En 1880, certaines associations fraternelles sont reconnues d'utilité publique, telles celles des employés et ouvriers des chemins de fer, devenues en 1883 Société Générale de Protection Mutuelle des Employés des Chemins de Fer, sous la houlette de parlementaires et le soutien de Victor Hugo, nommé président d'honneur. Elles ne sont reconnues syndicats professionnels qu'en mars 1884 par la loi Waldeck-Rousseau, qui abroge la loi Le Chapelier.
À Nîmes, dès 1886, des syndicats adressent une pétition au maire pour être autorisés à se réunir dans un local. Accepté en mars 1887, le typographe Claude Gignon, socialiste impliqué dans le mouvement coopératif, loue un petit local au numéro 7 rue Saint-Paul, c'est la rue actuelle Benoît Malon, et précise les buts de ces réunions dans cette bourse du travail, la seconde ouverte en France après Paris. Déterminer les conditions de travail les mieux adaptées aux besoins de la nature humaine. Associer les salariés en vue d'acquérir la force nécessaire pour établir ces conditions quand elles seront reconnues applicables. On y tient un registre des offres et demandes d'emploi et tente d'y organiser la défense des intérêts des ouvriers lourdement touchés par les effets de l'industrialisation.
Rapidement trop petit, plusieurs conseillers municipaux réclament en 1891 la construction d'un local. Il sera inauguré début 93 dans l'immeuble communal à côté de l'école des garçons du numéro 14 rue Pavée, l'actuelle rue Fernand Pelloutier. Et ça correspond à l'actuel théâtre Télémaque. Cette seconde bourse du travail est agrandie en 1901 et le libertaire Pelloutier la dirige vers un syndicalisme révolutionnaire indépendant de tout parti politique. C'est là que sera accueilli en 1895 le congrès de la Fédération des bourses du travail. Pendant ce temps, le syndicat des cheminots nîmois crée une caisse de secours en 1893. Enfin, une troisième bourse du travail sera installée place Questel de 1969 à 2005.
Voici les débuts du mouvement coopératif. Nous avons vu qu'en 1848, les premières tentatives de coopératives de production avaient avorté. Notons pourtant que, contrairement au magistère catholique, l'enseignement protestant était déjà réalisé généralement selon le principe de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire que les élèves les plus anciens enseignent les plus jeunes sous simple contrôle du professeur. À nouveau bloqué, comme les syndicats, par la loi Le Chapelier, le principe coopératif ne se légalise qu'en 1867, par analogie avec la loi sur les sociétés, et dès 1868, un groupe éducatif ouvrier fonde à Nîmes une petite coopérative d'achat, la Solidarité. Ce mouvement se développe vraiment avec Auguste Fabre. C'est le fils d'un pasteur aisé d'Uzès, admirateur du franc-comtois catholique Charles Fourier, cet utopiste adepte de Rousseau et auteur, en 1822, d'un traité optimiste sur l'association domestique et agricole en vue d'une société communautaire.
En réalité, la mutualisation volontaire du travail exista probablement de tout temps entre voisins. On la retrouve par exemple en Bourgogne, structurée dans un acte de vente de 1263 de la fruitière de Poligny, un local de stockage du lait produit durant le printemps et conservé sous forme de grosses meules de fromage à pâte pressée et cuite pour l'hiver. Les petits éleveurs y regroupaient leur collecte de lait pour pouvoir fabriquer une meule entière et étaient payés, après sa vente, en fonction du volume de lait apporté.
Marié et installé à Nîmes après un séjour aux familles Lister de Gaudin à Guise, Auguste Fabre devient réparateur de machines agricoles et fonde en 1876 une chambrée populaire liée à la Solidarité à l'angle de la rue Neuve et de la ruelle des Saintes-Maries, les actuelles rues Jamet et Gaudin depuis 1899. C'est une société d'éducation populaire inspirée du Fourier où une quinzaine de bourgeois et ouvriers mélangés évoquent les tentatives coopératives alsaciennes et lyonnaises, discutent de grandes causes sociales. En 1878, avec une trentaine de membres, Fabre fonde dans le même local une coopérative de consommation, vente de vin limitée à 10 francs par semaine, puis de bois et de charbon. En 1880, s'y joint un temps la Renaissance, une boulangerie coopérative.
Arrive un second personnage venu de Paris, où il était chef de service à la banque Grefful, issue de la banque Necker-Girardot. Né d'une Anglaise d'origine quaker et d'un banquier, Édouard de Boive, 1840-1923, s'installe à Nîmes en 1872, après son mariage avec Camille Collomb, la fille de Julie de Denant et du riche soyeux nîmois François-Albin Collomb. Il affiche un socialisme chrétien résolu et s'intéresse à l'enseignement élémentaire mutuel. Le couple loge chez les beaux-parents, près de l'esplanade, sur l'actuelle place du 11 novembre, et ils sont très actifs dans les œuvres charitables.
En 1875, Édouard entre au comité de la Maison de santé protestante évangélique fondée en 1842 par Frossard, pasteur de l'Église libre, installée du 8-10 rue de Sauve et 1 à 3 avenue de la Plateforme.
En 1878, il s'inscrit au diaconat réformé comme secrétaire jusqu'en 1900. Par cette double appartenance, De Boive s'efforce de rapprocher ces deux œuvres complémentaires et longtemps en compétition. En 1882, il écrit « Beaucoup disent que la paresse et le mensonge sont les deux compagnons de la misère. Ceux qui les ont souvent visités protestent contre ces paroles égoïstes. Voyez, au milieu des femmes abandonnées, cette jeune femme, à la figure dévastée, suivie de trois enfants en bas âge. Son mari a pris l'habitude d'aller au café et a fini par abandonner son travail. Cette femme ne peut suffire à sa tâche et quand son mari paraît, c'est pour lui retirer le pain qu'elle gagne péniblement pour ses enfants. » Zola n'est pas loin.
De Boive s'occupe également de la société de prévoyance et de secours mutuel, de l'administration de la Caisse d'épargne. Des crises économiques violentes secouent l'industrie textile nîmoise dans les années 80, générant chômage et misère que le diaconat a du mal à secourir, ce qui amène De Boive à s'intéresser aux idées associationnistes de production de Robert Owen et aux Christian socialiste des équitables pionniers de Rothschild. Bilingue, De Boive contacte à Londres l'Union coopérative anglaise et se convainc que la coopération peut améliorer la situation matérielle des ouvriers tout en contribuant à leur fonctionnement intellectuel et moral, et va donc s'intéresser à l'expérience nîmoise d'Auguste Favre.